comme Monsieur Aranaz, qui boucle ainsi la série des présentations. Et avant d'entrer dans cette séance de questions et réponses, veuillez éteindre vos téléphones portables ou les mettre sous mode silencieux. Et nous partons tout de suite à Goma pour prendre deux questions pour par souci d'équité, parce que la dernière fois, Charles Bambara avait commencé par ici. Goma, donc, vous avez le micro pour deux questions. Une question par journaliste, soyez bref et allez droit au but. Merci.
Merci beaucoup. C'est Yves Lopatière de AFP. Ma question s'adresse au colonel qui vient de faire un briefing là. Je voulais poser la question à propos de la sécurisation. Vous dites que vous appuyez les FRDC pour sécuriser la population. Et pourtant, la population continue toujours à encaisser les morts. Comment vous pouvez expliquer ça? Merci beaucoup.
Oui, colonel Martin.
Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste.
La MONUSCO a été mandatée pour un. La neutralisation des groupes armés en RDC et de protéger la population civile. Est-ce que c'est ce que nous faisons jusqu'à présent en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo? Vous n'êtes pas sans savoir que les forces armées et les forces de sécurité et de défense de la RDC sont au premier plan de la protection des populations civiles. Mais aussi, vous savez que depuis plus d'un an, il n'y avait plus les opérations conjointes entre les FARDC et la force de la MONUSCO. Tout ça a laissé un vide. Et comme aussi je l'ai dit la dernière fois, quand j'avais assisté à un colloque ou à un séminaire où le gouverneur du Nord qui voit à présider, il disait quoi? Quand ces mêmes populations que nous sommes censés à protéger abritent des éléments des groupes armés, quand ils hébergent ces éléments des groupes armés, comment voulez-vous que nos frères d'armes, les FADC, appuyés par nous, force de la MONUSCO, nous arrivions à vraiment, effectivement, les protéger. Beaucoup de militaires des FARDC sont décédés rien que pour protéger les populations de leur pays, de la RDC. Beaucoup de casques bleus aussi sont partis comme ça dans leur mission de protection des populations civiles. Tant que ces populations ne cesseront pas d'habiter. Leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, tant que ces populations ne diront pas, n'appelleront pas leurs parents à cesser ces activités négatives, je pense que même si on mettait un militaire par maison, ça ne marchera pas. Donc, je lance un appel à toute la population, surtout du Nord Kivu, et à sensibiliser leurs parents, leurs frères, pour que cesse l'activisme, cette tracasserie, cette tuerie, cette pillage, pour que la paix revienne effectivement en RDC. Merci beaucoup.
Oui, merci. Peut-être juste pour compléter un peu, en exprimant d'abord toutes nos condoléances à toutes ces victimes qui sont victimes des activités négatives des groupes armés, que ce soit au Nord Kivu, au Sud Kivu et un peu partout. Je voudrais tout simplement relever qu'il faudra quand même louer et encourager les efforts qui sont entrepris aussi bien par les FRDC que la police nationale congolaise pour sécuriser ces populations. La tâche est difficile, le terrain est beaucoup plus ingrat, ça veut dire qu'il limite un peu toutes les activités que veulent mener les FRDC appuyés par la MONUSCO, mais nous poursuivons nos efforts et nous pensons qu'avec la contribution des populations, qui sont elles-mêmes des cibles potentielles, nous pourrons arriver à réduire significativement cette menace. Donc nous restons toujours à Goma pour prendre une deuxième question.
Oui.
Merci, je m'appelle Justin Kisou-Mongani, de la radio communautaire de Walikale. Ma question s'adresse à Madame Florence, et si peut-être Félix va le compléter, c'est un rapport avec, c'est une question humanitaire. Avez-vous un plan spécial humanitaire dans les zones qu'on appelle îlots de stabilité, précisément à Walikale et Massissi sans oublier Mouchourou, Florence?
Est-ce que vous pouvez répéter la question? On n'a pas très bien entendu ici à Kinshasa. Et ce sont les collègues d'Otcha qui vont vous répondre.
La question, je disais ceci, si vous avez un plan spécial humanitaire réservé dans les zones qu'on appelle îlots de stabilité. Parce que si j'essaie un peu de se référer aux différentes informations du porte-parole militaire, il nous a informé que la situation n'est pas bonne dans différents groupements ici à l'est, dans les territoires de Walikale, Massis et Mouchourou. Maintenant, je me demande si j'avais un plan spécial humanitaire dans ces zones-là.
Merci.
Alors, concernant Walikale et d'ailleurs pour toutes les autres parties de la RDC, il n'y a pas de plan spécifique pour chaque ville ou chaque contrée du pays. Comme vous le savez, en février, nous avons lancé le plan d'action humanitaire qui couvre les activités et les projets que nous voulons mener durant cette année 2016 pour un montant de 690 millions de dollars. Cela ne veut pas dire que quand il y a des besoins spontanés qui surviennent, comme on le disait là tout à l'heure à Mpatir, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à répondre. D'ailleurs, on est prêt à répondre parce qu'on sait qu'il y a toujours des imprévus dans ce milieu, dans ce travail que nous faisons. Donc, Walikale, non, pas de plan particulier, mais comme vous le savez, il y a tous les acteurs humanitaires, que ce soit du côté des Nations Unies, que du côté des ONG sont présentes dans la province du Nord Kivu et y répondent aux besoins lorsque ceux-ci surviennent.
Oui, merci à Yvon Edoumou de Otcha. Donc, retour ici à Kinshasa pour prendre deux questions, une sur la gauche. Passez le micro à gauche, s'il vous plaît. Oui, passez le micro.
Merci, c'est Isaac Ngwenza pour le camp de Congo Opportunities Media. Les rapports hebdomadaires de MONUSCO fait toujours état de l'insécurité qui continue à augmenter dans la partie est du pays, y compris les rapports sur les droits de l'homme. Moi, ma question est très simple. Pensez-vous que dans ces conditions, avec la récente résolution 2277 qui soutient qu'il y ait dialogue et les élections cette année dans le respect des délais constitutionnels. Pensez-vous que la CENI pourra organiser des bonnes élections et crédibles dans cette situation? Merci.
Oh oui, merci. Peut-être que M. José Maria prendra la deuxième partie de la question. D'abord, je ne vois pas de lien de cause à effet entre l'organisation des élections et l'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Cette insécurité est causée, provoquée, entretenue par des groupes armés, sans foi ni loi, qui sont d'ailleurs illégaux. Et maintenant, vous faites référence à la résolution 2277 relative à une partie de cette résolution qui est d'ailleurs l'organisation des élections par la CENI et vous parlez aussi du dialogue par rapport à ça. Est-ce qu'on pense que les élections vont se tenir? C'est bien ça votre question? de bonnes élections. Oui, c'est un souhait. Donc d'abord, il faut relever que les problèmes qui sont posés pour la bonne tenue des élections ne sont pas des problèmes négligeables. Ce sont d'abord des problèmes sécuritaires liés à la sécurité des élections, ce sont des problèmes financiers, ce sont des problèmes techniques liés à la révision du fichier électoral, et un certain nombre de problèmes sur lesquels la CENI et les autres acteurs sont en train de travailler. Maintenant, je ne peux pas présager à l'avance de la tenue de bonnes élections, mais une chose est sûre, pour que ces élections puissent avoir lieu, et ça c'est la position des Nations Unies, il faut que les Congolais s'accordent à aller vers un dialogue inclusif, parce que nous avons vu que nous tendons vers une sorte d'impasse relative à ces élections à venir. Donc, mettre sur la table, comme je dis, les points de convergence ou les points de divergence, et décide de ce qu'ils veulent réellement faire. Mais au niveau de la communauté internationale des Nations Unies, de manière très générale, nous sommes déterminés à accompagner ce processus-là, nous sommes déterminés à appuyer la révision du fichier électoral, nous sommes déterminés à faire à mettre en œuvre les bons offices à travers le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour amener toutes les positions à se réconcilier et qu'on aille à l'essentiel parce que le temps presse, il y a pratiquement plus de temps. Donc je pense que quelles que soient les discussions qui vont être initiées et quelles que soient les conclusions qui sortiront de ces discussions, je pense qu'il y a un facteur fondamental, c'est la prise en compte au centre de tous les débats des populations congolaises, parce que c'est ça qui nous intéresse, mais tout ceci doit se faire dans le respect de la Constitution. Donc, merci, nous prenons une deuxième question ici. Oui, excusez-moi, peut-être que M. José Maria a quelque chose à rajouter.
Oui, merci beaucoup. La moitié de la question a fait référence à la crédibilité du processus électoral. On ne parlait pas des élections, mais processus électoral, ça veut dire avant, pendant et après les élections. Et il faut emphatiser qu'il n'y aura pas de sélection crédible s'il n'y en a pas de respect des droits de l'homme, des droits de l'homme consacrés à la Constitution congolaise pour tous les acteurs des processus électoraux, ça veut dire les acteurs étatiques qu'il faut qu'ils respectent les droits de l'homme et aussi l'opposition pour la société civile et pour les médias. C'était le message principal du secrétaire général quand il était ici dans la visite de mois passé et il s'est rencontré avec la presse. La crédibilité des élections, ça, et c'est pour la crédibilité des élections, c'est nécessaire d'avoir le respect des droits fondamentaux consacrés à la Constitution, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifestation, surtout. Mais comme on a informé ça fait quelques instants, chaque mois, nous sommes très préoccupés par la tendance à l'augmentation des violations des droits fondamentaux qui dénote une restriction de l'espace démocratique. Alors, il faut changer cette tendance. Et pour ça, il faut commencer à respecter les droits fondamentaux de tous. Et c'est pour ça qu'on a fait une recommandation, une liste de 20 recommandations pour changer cette tendance inquiétante ou très préoccupante si on veut avoir les élections crédibles et apaisées.
Oui, merci. Donc, une deuxième question ici à Kinshasa, sur la droite. Oui, passez le micro.
Merci, je venais vous dire ça pour la RTNC. Ça tombe bien que qu'on soit en face du porte-parole de la mission onusienne. Résolution 2277, le gouvernement n'est pas du tout content, le gouvernement de la RDC. Motif du mécontentement, la résolution serait émaillée de certaines contradictions. C'est pas moi qui l'ai dit, les deux ministres l'ont dit la fois passée lors de leur conférence de presse. La question qu'on se pose maintenant, comment vous, mission onusienne, ayant constaté qu'il y avait des contradictions comme une certaine tentative d'imposer le pays sous tutelle, comment vous êtes obstiné à faire appliquer cette résolution 2277 à l'opinion nationale qu'internationale? Merci.
Oui, merci pour votre question. Donc, on revient sur la résolution 2277. Et je pense que Charles Bambara, lors de la dernière conférence, avait déjà répondu à cette question, peut-être sous un autre angle. Mais je voudrais d'abord corriger. Parce que quand vous posez le problème ainsi, vous occultez un pan très important de tout le processus. D'abord, il faut se féliciter de la façon dont les débats sont organisés au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des Nations Unies, où tous les États membres ont droit à la parole. Et vous n'êtes pas sans ignorer non plus que la République démocratique du Congo a un représentant permanent au niveau des Nations, du siège des Nations Unies qui prend part à tous les débats. Autre chose à confirmer, la République démocratique du Congo est un membre de la communauté internationale, membre à part entière des Nations Unies, et sa voix compte et ses avis sont formulés par ses représentants auprès de cette instance. Donc voilà, il faut d'abord caler les choses dans leur contexte. Maintenant, je parlais tantôt de la façon de la méthodologie qui a prévalu ou qui a présidé à aux débats qui ont eu lieu au niveau du Conseil de sécurité, donc qui ont permis d'abord au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Mamman Sambo Sidikou, de faire son rapport devant le Conseil de sécurité, suivi en cela par M. Raymond Tshibanda, qui a formulé, qui a présenté son rapport aussi aux membres du Conseil de sécurité. Il faut comprendre que le Conseil de sécurité est l'organe décisionnel au niveau des Nations Unies et que les recommandations formulées par la partie congolaise déposées devant le Conseil de sécurité ont été prises en compte dans la mesure où ça fait l'objet de débats. Et ces débats ont conclu de deux choses. Ça veut dire que les recommandations posées par le représentant congolais auprès des Nations Unies, ces recommandations ont été entendues, mais vous conviendrez aussi avec moi que c'est en toute souveraineté que le Conseil de sécurité prend ses décisions. Et ces décisions, une fois qu'elles sont prises, sont formulées par une résolution, et cette résolution nous donne un mandat, et ce mandat, nous devons le mettre en œuvre. Donc voilà le processus logique. Maintenant, vous parlez d'entêtement. Vous parlez de mécontentement des autorités congolaises. Vous savez très bien que d'abord, il n'est pas de mes responsabilités de commenter les propos ou en tout cas les déclarations des autorités. C'est tout à fait normal que les gens réagissent à cette résolution. Et ce serait d'ailleurs très grave si tout le monde disait bravo et applaudit. Au contraire, donc ça nous permet de savoir au moins quelles sont les positions d'un côté ou d'un autre. Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est que cette résolution est sortie et nous mettrons tout en œuvre pour que cette résolution soit une réalité dans nos actes de tous les jours, dans nos activités de tous les jours. Mais cette résolution ne peut pas être mise en œuvre exclusivement par la MONUSCO. Nous avons des partenaires. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous travaillons avec le gouvernement pour trouver des voies et moyens pour mettre fin à cette crise et soulager les souffrances des populations civiles. C'est à cela que nous nous attelons et je pense qu'il y a d'autres forums, il y a d'autres voies et moyens pour que, au niveau des Nations Unies, la RDC est un membre, puisse faire entendre sa voix. Et je pense que ceci n'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui ici. Notre rencontre ici, c'est de vous donner les explications relatives à ce mandat. Donc, merci. Nous partons tout de suite à Goma pour prendre deux autres questions à Goma. Je pense que nous serons obligés de poursuivre cette conférence de presse au moins 10 minutes parce que les présentations ont été un peu longues. Donc, Goma, vous avez 2 minutes très rapidement. Deux questions.
Oui, c'est M. Okito Papi, du journal École d'Opinion. Ma question s'adresse au colonel Bass. Vous êtes satisfait, bien sûr, de la résolution 2277. Je ne sais pas si c'est parce que le personnel de la MONUSCO va avoir du travail, parce que depuis la signature de cette résolution en RDC, il y a une controverse autour de la famille politique. Mais ma question est de savoir, est-ce que cette résolution n'est pas venue pour diviser les Congolais rien que pour que le personnel de la MONUSCO retrouve du travail? Merci.
Je voudrais bien que vous puissiez m'expliquer comment est-ce que cette résolution divise les Congolais. Je voudrais bien que vous m'expliquiez comment est-ce que cette résolution fournit du travail au personnel des Nations Unies qui est ici. Je pense que vous faites un mauvais procès et je pense aussi qu'il faudra positiver dans le cadre de la résolution qui a été prise très récemment. Parce que, figurez-vous que des pans entiers de la société congolaise ont eu à exprimer de manière très libre ce qu'ils pensent de cette résolution. Je pense que vous ne l'ignorez pas, à moins que vous vouliez l'occulter sciemment. La deuxième chose, c'est que, vous savez, je pense qu'il faut respecter les efforts que font les uns et les autres afin de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État, à la protection des populations civiles et à la neutralisation des groupes armés. Ce serait faire un mauvais procès, parce que vous savez que ce soit les forces de défense et de sécurité congolaises, que ce soit la force de la MONUSCO, mais aussi toutes les sections civiles de la MONUSCO, des autres agences des Nations Unies qui s'échinent tous les jours sur le terrain pour essayer d'apporter un peu d'assistance, un peu de réconfort à ces populations civiles. Je pense que c'est là qu'il vaudra beaucoup plus se focaliser sur ce que les gens font et peut-être critiquer ce que nous faisons en vue d'une amélioration. Mais je pense que ramener ces questions à des histoires de division du peuple congolais ou des gens de la MONUSCO qui cherchent du travail en RDC, je pense que ceci n'est pas tellement conforme à l'esprit et à la lettre de la résolution 2277. Nous restons à Goma, nous prenons une deuxième question.
Merci. Albert Kambale pour l'agence France Presse. Selon les informations parvenues à notre rédaction, il y aurait des présumés ADF appréhendés, l'un à Goma, à la Grande Barrière, et l'autre à Ouattaline, dans le territoire de Béni. La question est posée au porte-parole militaire de la MONUSCO.
Oui, colonel Amozo.
Effectivement, depuis le 23 mars dernier, où les FARDC ont amorcé une opération contre les ADF dans l'aide de l'Irenguiti, l'opération des FARDC a appuyé bien sûr par la force de la MONUSCO, où la force a utilisé tous ses moyens. Je cite par là nos hélicoptères d'attaque et notre artillerie, en plus des troupes au sol. Les ADF ont eu vraiment des diversions dans leur rang. Ils ont été disloqués. Les FARDC ont eu à appréhender quelques-uns d'entre eux et qui sont actuellement en interrogatoire. Et je pense que les opérations se poursuivent. Je ne peux pas donner plus de détails que ça. Toujours est-il que les et la force de la MONUSCO travaillent ensemble pour que l'activisme de ce groupe d'armée, ce groupe armé, c'est-à-dire les ADF, dans Béni et localité, puisse cesser un peu. Je dis pour ça, les différents chefs militaires, que ce soit de la MONUSCO ou des FARDC, se rencontrent régulièrement. Des planifications sont en cours. Et la semaine dernière, le commandant de la brigade du Nord Kivu a eu à signaler les positions du Nord Kivu avec le commandant de Chocolatou. Et également, la même chose a été faite par le commandant adjoint de la force, qui s'est rendu des fois du sud au nord, au sud Kivu. Le force commandant, lui, s'était rendu à Béni et il est même revenu la dernière fois de Djungu. Tout juste, c'est pour multiplier ses contacts, préparer des opérations pour pouvoir arriver à bout de ces groupes armés qui perturbent la quiétude des populations civiles dans l'est de la République démocratique du Congo.
Oui, merci. Donc, je rappelle que nous avons un invité qui est là, qui n'a encore reçu aucune question, M. Aranaz. Donc, retour ici à Kinshasa, nous prenons, deux questions. Oui, la question.
Oui. Je rebondis par rapport à la 2277, Jean-Pierre Kaimber, TGA TV.
que vous inspirent ces réactions des observateurs qui estiment que le fait pour le Conseil de sécurité de réserver une fin de non-recevoir aux recommandations de Ban Ki-moon et du gouvernement congolais par rapport à la réduction des troupes frise l'impuissance ou, si vous voulez, l'aveu d'échec d'une mission la plus coûteuse au monde qui, en 15 ans, presque 16 ans, n'a pas réussi à pacifier des petites contrées.
Je serais tenté de vous dire que m'inspirent ces déclarations. Je serais tenté de vous dire rien, absolument rien. Parce que, comme je le dis, le commentaire est libre. Mais je pense tout simplement que je vous ai expliqué ici quelle a été la procédure, quel a été le processus avant d'arriver à la résolution 2277. Je pense que tout le monde le comprend très bien. Maintenant, évidemment, comme je l'ai dit encore, le Conseil de sécurité est souverain dans les décisions qu'il prend. Monsieur Ban Ki-moon, depuis quelques mois, avait déjà déposé sur la table du Conseil de sécurité cette proposition de réduction de la force de 1700 casques bleus. Et ça n'a pas attendu le vote de la résolution pour que cette proposition soit déposée. Elle a été déposée au niveau du Conseil. Le Conseil a pris note dans la résolution de cette proposition de Ban Ki-moon et le Conseil s'est engagé à réexaminer cette requête tout en tenant compte de l'évolution sur le terrain avant de pouvoir procéder à cette réduction. Je rappelle qu'une première réduction avait eu lieu de 2000 individus l'année dernière, 2000 casques bleus, juste pour aussi exprimer de manière claire notre bonne volonté procéder à cette réduction, car nous nous sommes engagés dans un processus de retrait qui a été posé d'abord par la résolution 2211, mais aussi par la résolution 2277, et qui toutes les deux résolutions disent de manière très claire que ce processus devrait être fait de manière graduelle, de manière ordonnée, pour maintenir les acquis qui ont déjà été engrangés. Maintenant, dire qu'en 15 ans de présence au niveau de la MONUSCO, au niveau de la MONUC MONUSCO, au niveau de la RDC, n'a produit aucun résultat positif, ça n'engage que vous, et je pense que les populations congolaises qui bénéficient de notre appui, des populations congolaises qui nous voient à leur côté les aider, je pense qu'elles ont une position différente. Donc je prends une deuxième question ici. Oui, Saint-Florian, puisque vous avez le micro, gardez-le.
Merci pour la parole, Saint-Florian Katumba. Pour le compte de l'explorateur, j'ai une préoccupation à l'intention du porte-parole Félix Basse. Le facilitateur Edem Kouyo vient de commencer les consultations pour constituer les comités préparatoires du dialogue inclusif d'ici 10 jours. Est-ce que la MONUSCO, étant une église au milieu du village, dispose d'une feuille de route pour l'aboutissement en douceur de ce processus? Je vous remercie.
Oui, merci. Je ne pense pas que la MONUSCO soit une église au milieu du village. On n'est pas dans un village, on est en République démocratique du Congo, et nous sommes là sur l'invitation des autorités congolaises pour appuyer leurs efforts dans la restauration de l'État, de l'autorité de l'État, mais aussi la protection des populations civiles et la stabilisation. Donc, Monsieur Edem Kouyo, vous l'avez dit vous-même, avait déjà effectué une première visite ici à Kinshasa et avait rencontré certains leaders de l'opposition, de la majorité et aussi de la société civile. Et je pense qu'en dehors même de la République démocratique du Congo, il s'était aussi déplacé à Bruxelles pour rencontrer d'autres acteurs politiques en vue de préparer, si vous voulez, le dialogue national qui a été lancé. L'appel au dialogue national qui a été lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et avant lui, Monsieur Saïd Djinit avait déjà été mandaté par le secrétaire général des Nations Unies pour venir faire un travail exploratoire, déblayer le terrain pour que l'Union africaine puisse envoyer son facilitateur, qui a d'ailleurs été confirmé dans ses fonctions par un communiqué de presse issu la semaine dernière. Donc oui, Monsieur Edem Kouyo a reçu un mandat et il est en train de travailler, et il a annoncé lui-même au cours d'une conférence de presse que une feuille de route, ou en tout cas la mise sur pied du comité préparatoire était pour très bientôt, et je pense qu'il est en train de travailler là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la MONUSCO, nous appuyons fermement, nous mettrons tout en œuvre pour appuyer les efforts de M. Edem Kodjo afin qu'il arrive à remplir sa feuille de route qui est faciliter la tenue d'un dialogue national où toutes les expressions vont être exprimées et que les Congolais pourront s'accorder sur quelque chose afin d'aller vers des élections transparentes. Parce que, comme je l'ai dit, l'objectif final, c'est d'avoir un processus crédible, avoir des élections transparentes et apaisées. Donc, voilà la position de la MONUSCO. Nous mettrons tout en œuvre pour l'appuyer afin qu'il réussisse la mission qui lui a été confiée par l'Union africaine. Mais il aura besoin aussi d'être accompagné par vous les journalistes. Il aura besoin d'être accompagné par les populations congolaises parce que vous savez, la tâche n'est pas facile et tout seul, il ne pourra peut-être pas tout faire tout seul, mais c'est pour cela qu'il faudra une synergie d'action, une synergie de soutien à ces efforts-là pour qu'ils puissent au moins arriver à des résultats acceptables. Oui, donc nous partons à Goma. Nous partons à Goma pour prendre une question à Goma. Mais je vous rappelle encore que mon ami José Maria Aranaz est là depuis très longtemps et c'est pas juste. Il faudra lui poser des questions. Oui, Goma, vous avez une question.
Merci pour la parole. C'est Norbert Mundula pour le compte du journal Émergence. Les déplacés qui étaient dans le sud d'Empati l'ont abandonné. Et à présent, ils occupent les écoles des villages de Bweru et des Kivunga, et également dans les villages aussi d'Empati. Comme vous le savez aussi, que ces déplacés sont considérés comme des soutiens des milices et non pas d'appui aux services sécuritaires. Ma question est de savoir... qu'est-ce que ces déplacés peuvent attendre de la communauté humanitaire dans un bref délai pour laisser libre ces écoles? Merci.
Oui, Florence, ou Yvon, oui, Yvon prend la question.
Il y a une partie de la question que je n'ai pas entendue, on parlait des écoles. Ok. Alors, comme Florence l'a dit tout à l'heure, nous avons sorti un communiqué. Je pense que vous y trouverez bon nombre d'informations qui pourront répondre à vos questions. Actuellement, il y a un certain nombre d'ONG et d'agences des Nations Unies qui sont déjà dans la zone, soit qui font route vers la zone de Mpati Bweru pour effectivement prendre le pouls de la situation et voir quel appui humanitaire de donner à ces personnes. Pour ce qui concerne les écoles, effectivement, c'est une problématique qui est très récurrente et nous faisons toujours un plaidoyer auprès des autorités pour que les écoles ne se transforment pas en maison où on abrite pour ses familles, mais effectivement servent à l'éducation des personnes de Congolais, y compris aussi des enfants déplacés. Et l'idée, effectivement, c'est que ces écoles puissent être libérées aussi rapidement que possible et qu'on trouve d'autres solutions en termes de logement pour ces personnes-là. J'espère avoir bien compris votre question.
Oui, merci. Donc, retour ici à Kinshasa pour prendre une question. Tiens, au moins une dame qui est volontaire, même si le mois de la femme est terminé, c'est bien ça.
Merci, c'est Yves Mavinga de Sika TV. J'adresse ma question au porte-parole de la MONUSCO. Je voulais savoir où en êtes-vous avec l'enquête sur des soupçons d'abus sexuels qui auraient été commis par les casques bleus tanzaniens dans le nord-est du pays et que prévoit la MONUSCO pour éviter de tels actes.
Oui, vous avez parfaitement raison de poser cette question qui est une préoccupation majeure. Et je pense bien qu'au début de cette conférence de presse, je vous ai parlé aussi de la visite de Madame Jane Lout, qui est actuellement là et qui est la coordinatrice justement des actions amenées par les Nations Unies dans le cadre de la lutte contre ces abus sexuels. Évidemment, il est déplorable et nous condamnons fermement ce genre de pratique que nous avons d'ailleurs mis à nu très tôt dès que nous en avons été informés, et aussi vous dire que immédiatement, sitôt que la MONUSCO a été informée, nous avons immédiatement déployé sur le terrain une équipe pluridisciplinaire composée de différentes sections à compétences différentes à Mavivi, pour d'abord non seulement évaluer la situation, mener des investigations et effectivement proposer des actions à prendre, car comme vous le savez, le secrétaire général des Nations Unies mène une croisade pour mettre un terme de manière définitive à tous ces agissements qui ternissent le travail magnifique qu'effectuent d'autres casques bleus dans d'autres pays du monde pour apporter un peu leur contribution à l'avènement de la paix. Donc cette équipe pluridisciplinaire a été rejointe il y a peu de temps par une équipe en provenance du gouvernement tanzanien, parce que dès que nous avons été au courant, nous avons informé officiellement le représentant permanent du gouvernement tanzanien à New York, mais aussi les autorités tanzaniennes ici, ainsi que les autorités congolaises, pour leur dire un peu toute notre préoccupation par rapport à cette situation. Donc, aujourd'hui, cette équipe est en train de mener le travail sur le terrain, mais notre préoccupation majeure va au-delà, justement, des faits qui sont reprochés ou aux allégations qui sont formulées contre ces casques bleus, parce que notre préoccupation première, aujourd'hui, la priorité, c'est la prise en charge des victimes. Les victimes. Donc c'est ainsi que, aussi grâce au concours de l'UNICEF et d'autres partenaires qui travaillent sur le terrain avec la MONUSCO, la question des victimes est devenue centrale et beaucoup de mécanismes ont été mis en œuvre pour cette prise en compte psychosociale des victimes avec l'UNICEF et d'autres partenaires. Donc nous poursuivons ces investigations et une fois que les faits reprochés ou les allégations seront confirmés, évidemment des mesures vigoureuses seront prises. Car comme je l'ai dit tantôt, une série de mécanismes ont été mis en œuvre jusqu'au jugement, à des procès qui peuvent se tenir ici, et c'est dans ce cadre-là que cette mission tanzanienne a été déployée pour juger in situ afin que les victimes puissent avoir droit à un procès équitable, car vous savez que ces procès tenus en Tanzanie auraient posé des problèmes quant à la présence des victimes à ces procès-là, et c'est dans ce cadre-là que nous mettons tout en œuvre. Il y a une stratégie qui a été mise en place. Madame Lout est là justement aussi pour pousser à la charrue afin que les mesures énergiques mises en place soient appliquées et qu'une conscientisation beaucoup plus poussée soit faite à l'endroit du personnel de la MONUSCO, parce que nous sommes pour cette politique de zéro tolérance, zéro aussi impunité dans ce cas-là. Donc voilà ce que je peux vous dire. Oui, je prends une dernière question à Kinshasa avant de mettre un terme à cette conférence de presse, mais je rappelle encore une fois, c'est vraiment pas parce que je suis jaloux, mon ami José Maria est au chômage aujourd'hui. Allez-y, vous avez une question. J'espère qu'elle est pour lui, hein.
Oui, merci, Monsieur Prosper. Ma question s'adresse à vous, Glody Mukoko, pour les comptes des As TV. Je crois que je dois rester dans le même diapason que mes prédécesseurs. Je signale déjà, tant au sujet du dialogue en fait, je signale déjà qu'au niveau du Conseil, vous êtes partisans et qu'il n'y a pas de contrepartie chez vous. Mais on sent toujours... comment je vais dire, les germes des contestations au niveau de la dynamique de l'opposition et pour faire, et comment je vais dire, et qui se dit d'ailleurs insatisfaite de la présence de l'ancien premier ministre togolais Eden Kodjo comme facilitateur de ces assises. Eh bien, quelle lecture faites-vous de cette problématique ayant tendance à bloquer encore davantage les dialogues convoqués par les chefs de l'État?
Je devrais d'abord vous dire une chose. Cette proposition de dialogue est d'abord une idée congolaise issue du président de la République. Et les Nations Unies, aujourd'hui, ont une position très, très claire. Si ce dialogue qui est inclusif, crédible, et conforme à la Constitution peut être initié et permettra de résoudre beaucoup de problèmes. Parce que vous savez, lorsque nous arrivons à un niveau où les gens n'échangent plus, les gens ne partagent plus, je pense qu'il y a des blocages et ces blocages portent préjudice au déroulement d'un processus électoral fiable. Donc, notre position est très claire et je pense que M. Ban Ki-moon, lors de son dernier passage ici aussi, a été très clair là-dessus. Il a dit qu'il n'y a pas d'autre solution que le dialogue. Donc, le dialogue est juste un moyen pour contourner ou aplanir ou surmonter toutes les difficultés qui se posent aujourd'hui au processus électoral. Ne me dites pas que vous l'ignorez. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez difficile. Et il faudra de la bonne volonté. Il faudra que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse transcender tout ce qui, aujourd'hui, pose problème à un déroulement normal du processus électoral. Donc, je dis que oui, les Nations Unies tiennent leur position, estiment qu'il faut que les gens dialoguent, il faut que les gens échangent, il faut que les gens aplanissent leurs divergences, il faut que les gens se parlent pour arriver à une solution. Donc voilà, de manière très globale, la position des Nations Unies. Et c'est à cet effet que je vous remercie d'avoir été nombreux d'être aujourd'hui avec nous. À mercredi prochain, excellente fin de semaine.